Chers amis, mais permettez-moi de saluer tout particulièrement Pierre Berger, cher Pierre, président du comité Laïcité et République. C'est un honneur pour nous et un plaisir que de te recevoir ici à l'Hôtel de Ville. Bien sûr, permettez-moi aussi de saluer très chaleureusement Patrick Kessel, mon ami aussi, et président du comité Laïcité et République. Odile Saug, présidente de ce jury 2011, Alain Seksik, pardon, qui est inspecteur de l'Académie nationale. Je voudrais saluer bien sûr aussi Elisabeth Badinter. Vous êtes tellement nombreux que j'ai peur de vous oublier, donc je vais dire chers amis, parce que il y a beaucoup de personnes que j'apprécie tout particulièrement. Je voudrais saluer aussi Manuel Valls, qui nous fait l'honneur d'être là. Et je sais combien il s'est mobilisé et il se mobilise sur les causes qui ont à voir avec la laïcité et la République. Bienvenue Manuel, ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Et puis, permettez-moi, sans dévoiler aucun secret, vous dire combien je suis heureuse d'avoir également Natalia Baleato, ici présente, et d'avoir également Nadia Elfani. Quelques mots pour vous dire que cette année encore, c'est un plaisir et un engagement que nous prenons en recevant le comité Laïcité et République pour la remise du prix annuel ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Et je voudrais bien sûr m'exprimer au nom du maire de Paris, au nom de tous les élus de notre municipalité, car ce moment est un moment important et un moment attendu. Moment important et attendu parce que nous célébrons et vous honorez des personnalités qui ont combattu pour la laïcité avec à la fois la dimension nationale et la dimension internationale. Vous y reviendrez tout à l'heure, mais je suis particulièrement admirative des lauréates et lauréats qui étaient dans ce jury et notamment du choix que vous avez fait. Mais je sais que d'autres y reviendront tout à l'heure. Je voudrais vous dire que la question de la laïcité, lorsqu'on est un élu, une élue à Paris, est un élément extrêmement important. Paris, c'est une ville capitale, bien sûr, une ville emblématique, une ville qui est considérée partout dans le monde comme la ville des libertés, une ville qui incarne les valeurs de la République. Et lorsque nous sommes élus dans cette ville, élus municipaux, nous savons que nous avons une responsabilité particulière et un devoir. Un devoir vis-à-vis de la République, un devoir de faire vivre la laïcité, un devoir de se battre pour la laïcité. Et c'est vrai que, étant née loin d'ici, en Espagne, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres rencontres que nous avons pu organiser ensemble. Je viens d'un pays, l'Espagne, qui regarde beaucoup, beaucoup d'Espagnols regardent vers la France et regardent la laïcité comme ce joyau, comme cette quête pour laquelle ils travaillent, ils se mobilisent et qui n'est pas encore un élément fondateur de leur système politique. Et pourquoi, étant née en Espagne, je continue à penser et à m'accrocher à cette idée que ce fondement de la République qu'est la laïcité est vraiment un joyau que nous devons continuer à défendre, à préserver et à promouvoir. Parce que c'est la laïcité qui nous permet de vivre ensemble. Je pense que ces mots, Manuel, résonnent aussi dans tes oreilles. Nous savons combien les républicains espagnols étaient et sont toujours attachés à cette idée que la laïcité doit pouvoir permettre, comme c'est le cas ici en France, de garder, de maintenir cette liberté d'opinion, cette liberté indispensable à chaque citoyen, à chaque citoyenne, celle de pouvoir croire ou de ne pas croire, celle qui garantit la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer un culte, mais qui garantit surtout cette liberté de pouvoir penser, de pouvoir adhérer ou pas à telle ou telle philosophie. Et ce joyau, nous le savons, a connu un certain nombre d'attaques. D'ailleurs, celles qui ont valu la création du comité Laïcité et République il y a 20 ans et qui n'a jamais désarmé. Et je voudrais, cher Patrick, te remercier pour cela. Ne jamais désarmer, ne jamais se résigner et venir toujours nous chercher, quand je dis nous, c'est y compris les élus de la gauche, lorsque par telle ou telle pratique naissante, la laïcité peut être en danger. Nous le savons, il ne peut pas être opposé de relativisme culturel. Ce n'est pas possible. C'est une valeur universelle. Et le relativisme culturel ne peut que venir atténuer, enfreindre la liberté de penser, la liberté d'opinion que garantit notamment la laïcité. Nous le savons aussi, dans les menaces récentes, la dimension, la philosophie ou ces courants de pensée liés au multiculturalisme ou vantant le multiculturalisme sont aussi des dangers. Je voudrais saluer le travail qu'a fait sur ce thème, notamment un travail d'alerte, un travail extrêmement sérieux, un travail qu'a fait Caroline Fourest. Parce que le multiculturalisme, pour nous qui croyons aux valeurs de la République, qui croyons à l'intégration républicaine, c'est justement tout le contraire. C'est ce qui, d'une façon sans doute habile et très accessible par un certain nombre de médias aujourd'hui, ne peut que venir contredire ou affaiblir ce modèle républicain et faciliter ou favoriser le communautarisme qui est l'antithèse de ce modèle républicain auquel nous tenons. J'y tiens vraiment tout particulièrement, comme vous ici, parce que je sais que c'est ce modèle républicain d'intégration et non communautariste qui fait que la petite Espagnole, fille d'ouvrier immigrée en France dans les années 60, a pu faire des études dans l'école laïque républicaine française et a pu faire des études supérieures et être sans doute là aujourd'hui. Et si nous n'avions pas eu cet attachement à ce modèle républicain, intégrateur et non pas communautarisant, eh bien, je pense que comme beaucoup personnes qui étaient dans la même situation que moi, je n'aurais pas pu avoir ce parcours. Et il suffit de voir les pays dans lesquels il n'y a pas cette référence d'intégration républicaine, notamment avec l'école comme pilier, comme fondement, pour s'apercevoir que, effectivement, ces modèles ont plutôt favorisé le communautarisme. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait en terre républicaine où la laïcité est un fondement auquel nous sommes tant attachés. Non, au-delà de l'incantation que certains font des valeurs républicaines, il faut mettre des mesures concrètes. Les valeurs de la République, elles doivent aussi s'appuyer sur des politiques concrètes, à l'école, dans la lutte contre la discrimination, dans l'égalité femmes-hommes. Elles doivent vraiment passer par des mesures concrètes, sans quoi, effectivement, certains désespèrent et vont se réfugier vers d'autres modèles qui sont des impasses et qui sont parfois, je peux le dire aussi, extrêmement dangereux. Je voulais dire ces quelques mots en préambule et saluer vraiment celles qui, notamment dans les révolutions arabes, auxquelles, ce printemps arabe auquel elles ont pris part, ils ont pris part, continuent à se battre pour l'idée que ces révolutions sont des révolutions qui sont nées d'un besoin de liberté, d'un besoin aussi d'égalité. Et l'égalité, elle est bien sûr sociale, revendiquée sur le plan social, mais elle est aussi revendiquée sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, chère Nadia, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait et pour votre travail. Et puis, je voudrais dire aussi à Natalia qu'ici, en France, il faut aussi se battre dans des services publics essentiels, comme les crèches, puisque les crèches ne sont pas couvertes par la loi qui concerne l'école, mais dans les services publics, pour qu'il y ait une neutralité de ces services publics, qu'on se défende, qu'on la défende, pour permettre à nos enfants de ne pas être, dès le plus jeune âge, effectivement, confrontés à des modèles dans lesquels la soumission à une croyance passe aussi souvent par la soumission des femmes à des règles qu'on n'impose pas aux hommes. Et je crois que, Natalia, le combat que vous avez mené à Chanteloup-les-Vignes vaut effectivement qu'on s'y arrête, qu'on réfléchisse, qu'on mûrisse et qu'on persiste dans le soutien que nous vous apportons. Voilà, mes chers amis, je voulais vous dire que même si effectivement il y a encore beaucoup à faire, que la vigilance et la mobilisation de ce comité est essentielle, nous, les élus de la République, et ici les élus de Paris, sont mobilisés à vos côtés. Et bientôt, nous aurons à Paris, je l'espère, le 9 décembre, nous pourrons inaugurer une esplanade de la laïcité. Nous avons... Merci. Nous avons voté un vœu en Conseil municipal de Paris cette semaine sur le principe. Nous avons trouvé une localisation et je crois que ça sera une très belle localisation. En tous les cas, je pense que ce sera encore un moment très important pour célébrer la laïcité. Et puis nous aurons un deuxième moment, un petit peu plus tard, qui sera la refondation du patronage laïque du 15e arrondissement de Paris, qui avait été construit en 1905 sur la base d'une souscription populaire. Et ce patronage laïque, qui a été menacé de destruction avant 2001 par les municipalités précédentes, le maire de Paris l'a non seulement sauvé, mais maintenu. Mais nous avons décidé, avec le maire de Paris, de mettre en place un programme pour reconstruire ce patronage laïque du XXIe siècle et non seulement refaire les murs, mais penser, et en cela Marc Blondel, président de la Libre Pensée, nous accompagne dans le comité stratégique de réflexion sur ce que doit être un patronage laïque au XXIe siècle, réfléchir à ce lieu qui doit être aussi une référence, un lieu ressource pour toutes celles et ceux qui défendent les valeurs de la République et un lieu tourné vers les enfants. Merci beaucoup.